Alors, je voudrais revenir sur la question tout à l'heure que vous avez évoquée sur les effets des ondes. Quand on dit qu'il n'y a pas d'études ou qu'il n'y a pas de preuves, on ne sait pas, je peux vous dire que à partir d'une petite phrase d'un chercheur qui s'appelle Bernard Verret, qui était directeur de recherche dans le laboratoire de physique des interactions ondes-matière. Interactions ondes-matière, ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les ondes et la matière. Donc, il a dit une petite phrase en 1991, c'est « L'un des effets les mieux étudiés en bioélectromagnétisme est la fuite des ions calcium provoqués par l'exposition, donc soit aux basses fréquences, soit aux radiofréquences, et en particulier quand il y a aussi un champ géomagnétique. » Et donc, à partir de cette petite phrase, en tirant ce fil, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on peut, donc j'ai fait une publication que vous pouvez trouver ici, qui s'appelle « Mécanisme d'action des ondes électromagnétiques sur les organismes vivants », parce que moi, ça fait en fait 15 ans que, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais je suis journaliste scientifique, et ça fait 15 ans que j'enquête, je fais des investigations dans ce domaine. Et donc, les effets des ondes sont connus. En fait, qu'est-ce que c'est que les ions calcium? C'est le calcium, non pas celui qui est dans nos os, mais celui qui est dans nos cellules. Et c'est 1% du calcium que nous avons dans le corps, et il n'arrête pas d'entrer et de sortir de toutes nos cellules. Et en entrant et en sortant, ces ions calcium accomplissent des fonctions vitales, comme par exemple le battement cardiaque, la sécrétion du cholestérol, la vasoconstriction, vasodilatation. Il y a également la cicatrisation, la transformation blastique des lymphocytes T, c'est-à-dire l'immunité. Bref. Donc ils interviennent dans à peu près toutes les fonctions vitales, enfin, énormément de fonctions vitales. Ce que font les ondes électromagnétiques, c'est qu'elles provoquent une sortie des ions calcium au niveau des cellules. Et toutes les ondes électromagnétiques provoquent cette sortie, que ce soit la lumière, la chaleur, les basses fréquences ou les radiofréquences, les micro-ondes. Mais dans l'état normal de la planète, on est toujours dans une alternance entre le chaud et le froid, puisque la nuit, la température corporelle descend, la nuit, eh bien, on n'a pas de lumière, etc. Donc, à ce moment-là, la nuit, les ions calcium rentrent dans les cellules et accomplissent toutes les fonctions qui se passent quand ils rentrent. Donc il est absolument indispensable d'avoir cet équilibre de jour-nuit et cet équilibre entre exposition, non-exposition, cette alternance entre exposition, non-exposition. Et ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques, c'est qu'on est exposé H24. Les gens qui sont sous les antennes relais, les gens qui ont un téléphone portable, l'électricité de votre simple lampe de chevet, etc., le Wi-Fi, bien évidemment. Donc on est exposé H24 et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus ce retour à l'homéostasie cellulaire. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien lisez cette publication qui s'appelle « Mécanisme d'action des ondes électromagnétiques sur les organismes vivants » parce que là tout est expliqué. Et il faut arrêter de croire que pour l'instant rien n'est prouvé, c'est leur discours. Mais déjà si on regarde ce qui est officiel, je ne crois pas que ça a été déjà dit ce soir, tant les basses fréquences que les radiofréquences ont été classées à 10 ans d'intervalle comme potentiellement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. Donc c'est tout à fait officiel. Potentiellement cancérigène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut provoquer le cancer. Eh bien, je peux vous assurer que si dans les groupes d'expertise il n'y avait pas eu des chercheurs payés par l'industrie, ils auraient peut-être dit c'est cancérogène probable, voire c'est cancérogène sûr, puisqu'il y en a des cas. Et donc, je vais vous raconter à ce sujet, quand même c'est important que vous le sachiez, c'est un ami à moi qui était donc en train d'attendre un TGV pour aller à Montpellier. Et comme il est dans l'univers du spectacle, en 2008, il parlait avec un collègue d'un troisième qui avait une tumeur cérébrale. Parce que c'est une profession dans laquelle ils ont utilisé les téléphones portables depuis très longtemps. Et donc ils ont aussi déjà les effets. Et à ce moment-là, un homme qui était derrière eux s'est joint à leur conversation. Leur a dit, je suis neurochirurgien au CHU de Montpellier, j'opère actuellement des tumeurs, soit à droite, soit à gauche, chez des personnes qui ont téléphoné au portable pendant une heure par jour depuis 10 ans, et en plus, quand j'ouvre le cerveau pour enlever la tumeur, je m'aperçois que les vaisseaux sanguins dans la région de l'oreille sont endommagés. Ça, c'est l'acte 1. Mais bien sûr, je n'avais pas le nom de ce neurochirurgien. Il se trouve qu'après, j'ai rencontré un médecin généraliste de Montpellier qui m'a dit « Je connais tous les neurochirurgiens du CHU de Montpellier. » Alors je lui ai dit « Écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous leur disiez que soit ils me contactent pour faire un témoignage anonyme, dont je garantirai l'anonymat, soit encore mieux qu'ils fassent une étude de cas, qu'ils publient une étude de cas. » Qu'est-ce que c'est qu'une étude de cas? Mais par exemple, sur la thalidomide, c'est un simple médecin, un médecin généraliste, qui avait constaté dans sa patientèle, dans ses clients, enfin ses patients, qu'il y avait donc deux mamans qui avaient donc pris ce médicament pendant leur grossesse et qui avaient donné naissance à des enfants avec des malformations. Il a juste publié ça dans une revue scientifique. Ça s'appelle une étude de cas. On publie un cas. Et à partir de là, il y a d'autres médecins qui se sont rendus compte qu'eux aussi, ils avaient ces cas. Et c'est comme ça que l'affaire de la thalidomide est sortie. Donc, vous voyez que l'étude de cas, c'est très important. Et si ces chercheurs acceptaient de publier leurs études de cas, eh bien, ça pourrait aussi permettre de mettre fin à ces mensonges, soi-disant pseudo-scientifiques. Et alors donc, quelques mois plus tard, je l'ai revu. Et alors, je lui ai dit, alors, parce que je n'avais pas une nouvelle, il me dit, aucun d'entre eux ne veut se mouiller. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on en est là. C'est parce que les professionnels ne nous protègent pas.
Oui.
Et...
Bon.
Pardon ?
Ils ont peur.
Oui.
Ils ont peur de quoi ? Ça, je ne sais rien, il faudrait leur demander. Moi, c'est pas mon problème de savoir de quoi ils ont peur. Bon. Je leur reproche simplement de ne pas faire leur travail. Qui est-ce qui a le micro actuellement ?
Oui. Bon, moi, Annie, moi, Jean-Jacques Mulhan. En fait, je croyais que nous étions là, tous, bien sûr, avec des motivations différentes, mais très informés. Or, je nous vois beaucoup plus avec des questions. Et, bon, pour faire vite, donc, je m'appelle Jean-Jacques Mulhan, je fais partie du comité anti-Linky dans le Lot, en Corrèze, Midi-Pyrénées, Gironde, etc. Et aujourd'hui, 8 septembre, il y a une réunion là-bas, j'ai eu à citer et je suis venu plutôt ici. Je me disais que l'intérêt, et je suis content d'avoir entendu madame intervenir pour expliquer tout ça, je me disais, bon, nous sommes tous au courant de tout ce que vous dites, donc on va passer à la cape supérieure. Puisque nous savons tous qu'effectivement, ils ne vont pas faire l'enquête chez eux, évidemment, ils ne sont pas fous, c'est des génocidaires, ces gens-là. Donc, moi, je croyais, c'est pour ça que je suis venu ici de ma province, quoi, je croyais que nous allions mettre en place, mais vraiment, comment convaincre nos compatriotes, les administrés, comme vous dites, mais... ceux qui votent, ceux qui ne votent pas, et on ne me la fera pas là du Pontaignan, mais je m'en fous des élus, mais vraiment, et contre vous. Vraiment, la grande question est, aux Nuits Debout, où je viens de lâcher les copains de Nuits Debout, ils sont en train d'entendre le discours d'Isabelle Attard, je crois que c'est son nom, qui dit comment pirater les élections. Et j'ai évoqué un peu le Linky. Et l'idée serait celle-là. Les élus, ils vont toujours nous faire l'entourloupe, les manœuvres dilatoires. Allez, on va vous inviter, un petit four, monsieur. Allez, vous êtes convoqué, madame. Rien à foutre de leur truc, là. C'est la vie de nos enfants qui est en jeu. Donc, ce qui se disait à Place de la République, il y a encore... Je ne sais plus quelle heure il est là, puisque j'ai été à mon portable, mais je crois qu'il y a déjà 3-4 heures. Ce qui se disait en milieu d'après-midi, Place de la République, je ne sais pas s'ils sont en train de le dire avec la Nuit Debout, c'est l'idée qu'on ne va pas, certainement pas, demander l'opinion de Dupont-Aignan ou de qui que ce soit, ce qu'ils comptent faire, parce qu'on sait très bien qu'ils comptent nous arnaquer. Ils sont de toute façon récipiendaires. Ils sont récipiendaires des informations. Ils veulent les informations. Annie n'arrête pas de le répéter, mais nous aussi, on le sait. C'est ça qui les intéresse. En réalité, c'est un groupe boursier européen qui a tout l'intérêt de tous ces trucs-là. Alors, vous pouvez toujours parler techniquement en disant oui, le flux, et tout, mais on n'en a rien à foutre. Le Gaspard. Ou les frontières intelligentes, comme ils disent, c'est exactement pour nous fliquer et rien d'autre. Donc, maintenant, l'enjeu est celui-là, et je crois qu'il est très important. L'enjeu, il est, ou bien, nous faisons confiance à des élus qui sont... il y a 7 lobbies derrière chaque député, chaque siège de député, il y a 7 lobbies. 7. Donc, de moyenne. Donc, inutile de continuer à se faire blouser comme ça, inutile. Maintenant, on force le passage, on dit « on ne veut pas du Minki, on va trouver le maire et on force la décision. On demande à la préserver notre santé, notre sécurité, notre, comment vous disiez très bien au tout début, principe de précaution, mais aussi comment la discrétion, le fait que je n'ai pas à être surveillé. Quoi.
La privée.
C'est ça que nous devons mettre en avant. Et évidemment que l'argument technique va toujours intéresser. Et j'ai oublié de vous dire, jeune homme, quand vous parliez, il y a un argument massu. C'est que les assurances, quand on leur demande d'assurer le Minki, ils refusent.
C'est un problème de santé, ils n'assurent pas.
Donc, c'est bien la preuve, à partir de là, si je ne suis pas assuré, je n'ai pas de Minki. Voilà, tout simplement. Donc, et j'en terminerai là. Donc, ou bien... Peut-être qu'il peut y avoir d'autres propositions, mais ma proposition à moi, elle est là. Si on est en contact avec May, je reviendrai à l'ASSO. Je demanderai à ce qu'on mette en place un système, chacun dans nos communes, pour forcer les élus à prendre des décisions anti-Linky et à ne pas discuter. Ou alors, on fait semblant d'écouter Enedis, mais alors, parole moitié-moitié. Technique et on peut dire répartition de paroles un quart d'heure en réponse et non pas avec des discours ex cathedra où nous avons une tourloupe à coup de PowerPoint et autres. Il faut fermer la salle, alors vous avez une minute de parole, monsieur. Ça va.
Alors, sur la question des élus. Pour moi, c'est une chose qui me frappe, je n'ai pas vu dans aucun autre dossier, que ce soit les OGM, le nucléaire, etc., cette fronde commune des élus et des citoyens contre quelque chose de dangereux. Donc je ne vous rejoins pas tout à fait, et même pas du tout d'ailleurs, sur le fait de ne pas écouter les élus, puisqu'au contraire, là, on a des élus qui écoutent, et des élus qui soient volontairement, comme par exemple le maire de Loubeau, il n'avait pas été sollicité encore, c'est lui parce qu'il est informaticien, donc voilà, c'est un truc qui lui avait... Donc sur la question du Linky, je dirais heureusement qu'il y a des élus qui regardent le dossier, qui écoutent leurs concitoyens et qui prennent des décisions. Alors je voudrais donner la parole à Anne Viennet, qui vient de Fontenay-sous-Bois, notre voisine, et qui a été aussi donc à l'origine d'une délibération prise par cette ville de refus du Linky. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, justement, parce que c'était le débat aussi qu'on avait, est-ce que vous avez subi des pressions, parce que Fontenay, c'est quand même une ville assez grosse, est-ce que vous avez subi des pressions et comment est-ce que vous y avez réagi?
Alors, bonsoir à tous. Merci Annie pour l'organisation de cette soirée. Pour répondre tout d'abord au coup de gueule de monsieur, j'entends ce que vous dites et souvent je pense la même chose, sauf que élu, c'est un petit mot pour définir un ensemble très varié de situations. Je veux dire, effectivement, un député, il n'a pas la même situation qu'un élu local. Et moi, je suis pas payée pour être ici ce soir. Je suis conseillère municipale, je suis même pas maire adjointe. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est du militantisme. L'élu local qui a mis en place la fronde des communes, qui gère le site, qui fait la tournée de toutes les réunions.
Stéphane Lhomme.
Voilà, Stéphane Lhomme, tout à fait. Il a aucun intérêt. Ouais, voilà. Dans cette affaire et il préférerait rester tranquillement chez lui et on a carrément autre chose à faire, quoi. Donc élu, ça ne veut rien dire.
Je n'ai pas utilisé le bon mot, pardon.
Voilà. Bon, je suis ici ce soir parce que Jean-Philippe Gautret, le maire de Fontenay-sous-Bois, m'a demandé de le représenter ce soir. La commune de Fontenay-sous-Bois, qui est limitrophe de Montreuil, compte à peu près 3000 habitants. Et effectivement, on essaye d'avoir une attitude éclairée par rapport à ces questions de champs électromagnétiques. Voilà. On est tout à fait conscient de cette problématique émergente. On a pris un premier vœu le 18 juin, pardon.
Ah, on a pris... Déjà installé,
c'est loin d'être
installé. Ça fait 15 ans.
Non mais ça me dérange pas d'interagir avec la salle, coupez-moi, il y a pas de souci, juste j'entends pas ce que vous dites.
Moi je disais c'est pas une problématique émergente parce que le problème des radios fréquences.
Oui, d'accord. Oui, tout à fait.
Les années 80,
Oui, c'est-à-dire que, en fait, la prise de conscience, alors peut-être, est émergente. Voilà, si on veut dire différemment. Mais je ne disais pas émergent pour minimiser le problème. Hein. Donc, on a pris un vœu le 18 juin 2015 en conseil municipal pour justement affirmer notre volonté d'être vigilant par rapport à ces questions électromagnétiques, par rapport à la situation des personnes électro-hypersensibles. Nous avons refusé, parce que comme toutes les communes, GRDF a demandé à Fontenay-sous-Bois de signer une convention pour l'installation de concentrateurs sur des bâtiments publics de la ville pour mettre en place un système Gaspard. Nous avons refusé, ça n'a pas passé en conseil municipal. En fait, et voilà, on les a rencontrés, on a confronté les avis, il en a été déduit de tout ça qu'il ne fallait pas le faire, donc on ne l'a pas fait. Ceci dit, je tiens quand même à mentionner qu'à l'issue de l'entretien avec les représentants GRDF, j'ai posé la question de savoir ce qui se passerait si la ville donc refusait de signer la convention, et il m'a été simplement répondu aimablement que si ça n'était pas fait avec nous, ce serait fait sans nous. C'est-à-dire que les concentrateurs, voilà, et c'est vraiment texto, voilà, ce qui m'a été répondu, c'est-à-dire que les concentrateurs, s'ils ne se sont pas posés sur des bâtiments publics, seront posés soit sur des copropriétés privées, soit en priorité, bien entendu, parce que là, les gens n'ont pas leur mot à dire sur le HLM. Voilà. Voilà. Ça, c'est entendu. Et par rapport à la question du Nuki, effectivement, Fontenay-sous-Bois a pris une délibération, non pas un vœu, parce qu'un vœu, ça n'a pas le même poids juridique. Nous avons pris donc une délibération au conseil municipal le 23 juin dernier. Et dans le cadre de cette délibération, nous avons adopté une motion nous adressant au syndicat d'énergie, le CIPEREC, demandant effectivement de prendre en compte le fait que la commune ne souhaite pas que le Nuki soit déployé. Voilà, même si nous ne sommes pas tout de suite concernés, c'est quand même une question de solidarité nationale, parce que ce déploiement par tâche de léopard fait que effectivement toutes les communes ne sont pas confrontées en même temps au même problème, et du coup c'est la division pour mieux régner, quoi. Enfin bon, sans vouloir prêter une intention malveillante, en tout cas c'est le résultat. Pendant mes vacances, j'ai eu l'occasion de rencontrer des maires d'autres communes, je leur ai parlé du Nuki, ils ne savaient même pas ce que c'était, quoi, parce que dans certaines communes rurales ça se présentera en 2020, et donc c'est très très loin pour eux, sauf que en tout cas en marketing guerrier, on peut comparer ça à une tactique d'encerclement, c'est-à-dire qu'une fois que ce sera déployé partout, ils auront beau dire on n'en veut pas, on leur dira de toute façon, c'est déployé partout. Monsieur, vous posez une question peut-être, ou dire quelque chose.
Où est le micro?
Mais il y avait une question là. Il y avait peut-être une question là.
Je suis attendu depuis pas mal de temps. Ici, moi, je le vois en première ligne.
Est-ce que vous pouvez vous lever quand vous posez la question? Comme ça, je vous vois. Merci.
Absolument pas. Même pour le big data, je ne me cache pas. Hein. J'ai quatre réflexions. Alors, j'ai commencé à ne pas rebondir sur ces fameuses antennes qui collectent les données. Donc il y a en plus une conversion de fréquence. Tout ça, ça consomme de l'énergie. L'émetteur, ce qui s'appelle les concentrateurs, ça surajoute, faut pas rêver, ça surajoute aux antennes relais des portables, des 4G, des trucs. Vous faites Paris sur toutes les antennes, c'est tous les 300 mètres, c'est insupportable. On a mis une, là, une 4G, j'ai rien demandé, j'ai pas complètement tourné en, j'aurais bien saboté le truc, la grue quand j'en ai, puisque c'est France, si je dis pas de bêtises, en plus c'est même pas privé, c'est un organisme d'État qui vient poser l'antenne, je crois que c'est TDF, un truc comme ça, j'ai appris quelque chose. Mais ils n'ont pas voulu me faire rentrer pour que je récupère les documents et puis pouvoir les faire chier, quoi. Donc, mine de rien, c'est à 300 mètres. Ce qui veut dire que moi, qui aussi a quelques petites connaissances pour l'électronique, je vais devoir blinder ma pièce pour faire une cage de Faraday. Parce que là, effectivement, quand je suis en point à Savin, mais là, je ne suis peut-être pas électrosensible, mais comme c'est des ondes électromagnétiques comme dans les fours à micro-ondes. D'ailleurs, s'il y avait un four ici, je pourrais faire quelques petites démonstrations qui seraient très parlantes même à certains scientifiques. Ce que c'est qu'un champ électromagnétique, bon, certes, c'est 2000 volts sur 800 mégas, mais je peux vous dire que quand vous mettez une ampoule électrique filament cassé jusqu'à 500 watts, avec le bol de quand même, parce que sur ça, là, le four, il va pas apprécier, eh ben, je peux vous dire que vous avez l'ampoule, quel que soit, le filament va s'allumer, alors qu'il n'y a effectivement pas de fil. C'est très parlant pour les gens, c'est très pédagogique, c'est plus du théorique. Et je peux vous dire que même dans certains cas, il se crée un arc quand c'est des créneaux de 500 watts, un bel arc. Alors imaginez que, parce qu'on nous a parlé tout à l'heure de 5 voltmètres, ce qui était très gentil, il faut savoir que grosso modo, c'est 4G, c'est toutes ces saloperies. Donc le répétiteur, oui, le concentrateur, oui, je sais pas combien il rayonne en voltmètres, mais ça doit être dans ces puissances-là, parce qu'il faut transmettre l'information qui est dans les 800 mégas, donc c'est les mêmes bandes de fréquence, plus ou moins, donc les mêmes puissances, puisque c'est les mêmes distances. On est entre, ça peut osciller entre 30, et ça peut aller même jusqu'à 100 voltmètres de certaines zones, ce qui veut dire que, grosso modo, vous n'êtes peut-être pas dans un micro-ondes, mais quand vous passez à côté, je peux dire, même si vous n'avez pas électrosensible, vous avez des échauffements, parce que je reviens sur ce qui a été dit par les effets sur le corps. Annie Lobé a essayé d'expliquer à sa manière, en fait, les ions calcium, c'est que tout simplement, c'est une manière de produire de l'électricité, c'est le principe de la pile. Quand les ions sortent ou ils rentrent, il y a ce qu'on appelle une dépolarisation, ce qui fait un courant électrique en microvolts. Et le problème de ces champs électromagnétiques, c'est que c'est des tensions. Alors, il y a le premier aspect, il y a la tension électrique. Entre quelques microvolts et entre 50 et 100 volts, vous pouvez voir la différence, la cellule salamée KO. Après, il y a un effet thermique.
On a des gens ce soir qui s'y connaissent vraiment. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien revenir. Excusez-moi, parce que c'est un petit peu difficile.
Tu meurs un petit peu quand même, c'est pas s'y connaître. C'est que le monsieur, là, il est électrosensible, il est en train de se remettre un petit peu. C'est ça qu'il cherche.
Alors, par rapport au fait. Quelles sont leurs intentions? Est-ce que vraiment ils veulent nous tuer avec tout ça?
Non, mais je voudrais quand même finir. Je voudrais quand même finir par rapport à ça. Ça a quatre effets. Il y a l'effet champ électrique, il y a l'effet thermique. Hein. On a beau avoir des molécules chaperons.
L'effet thermique, ça veut dire un échauffement.
Un échauffement, ça peut être quand même 1,5 degré dans certains cas. Donc il ne faut pas s'étonner que les portables, et surtout maintenant les tablettes, les grosses tablettes 4G, comme elles doivent balancer plus de données, elles doivent être plus puissantes, on s'en prend plein la gueule. Moi, j'ai en plus, je suis en HLM, le triple play de Paris Habitat de Delanoë. Moi, je vomis dessus parce que moi, j'ai rien demandé, il est dans l'armoire, dans le tiroir, mais tous les autres autour de moi, ça rayonne. Donc, moi, c'est un cauchemar. En plus, c'est le deuxième. Il y a l'effet thermique, il y a l'effet électrique. Il y a l'effet aussi moins répertorié, parce qu'effectivement, il faut déjà des choix électroniques plus puissants. Mais il peut y avoir, dans certains cas, quand vraiment, potentiellement des cancers. Il y a cassure d'ADN, parce qu'avec le champ électrique, bon, bah, vous avez des molécules organiques dans le corps, il y a des échanges. Donc, ça vous casse un peu comme les rayonnements ionisants. Mais là, c'est un champ électrique casse les molécules et qui fait que bah, y a des recombinaisons, ce qu'on appelle grosso modo quand vous avez des cassures d'ADN, bah, ça crée des molécules peroxydées donc, qui veulent tout de suite capter notre électron et donc ça va recombinaison moléculaire qui vont faire qu'on aura des produits cancérigènes dans les cellules en plus. Et le quatrième, je m'en rappelle jamais, enfin il y en a quatre, bien répertoriés, et c'est pas d'aujourd'hui. Mais toutes ces enquêtes-là, elles ont été mises sur le côté. Parce qu'il faut savoir que le problème des ondes, c'est les Américains l'ont découvert, parce qu'à l'époque, les militaires, ils avaient des radars. Et puis, ils se sont rendus compte, c'est comme ça qu'ils ont fait après les micro-ondes domestiques, les fours. Mais ils se sont rendus compte, bah, les pauvres militaires, ils avaient chaud quand le radar, il crachait, parce que l'impulsionnait. Puis, à un moment donné, comme il y avait des antennes aussi, des fils, ça faisait des surtensions des armes. Et puis, le hamburger, qui n'était pas très loin du radar, bah tiens, il était chaud. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert les effets micro-ondes. Mais alors imaginez ce que ça fait sur le corps humain. Ah, je... Alors, non, mais... ça, le climat, il ne faut pas tout mélanger. Parce que j'entends des choses, là, il ne faut pas tout mélanger.